La science, c'est QFD. Natacha Trioux.
L'Androcure, ce traitement hormonal qui peut provoquer des tumeurs cérébrales, fait l'objet d'une action en justice. Les victimes poursuivent l'État et prochainement le laboratoire Bayer pour demander réparation. Ce projet statif commercialisé par les laboratoires Bayer depuis 1980 a été prescrit en France à des milliers de patients. Utilisé comme contraceptif ou contre l'acné et l'endométriose, son principe actif, l'acétate de cyproterone, est aussi connu dans un autre scandale sanitaire, Diane 35. En 2018, il a été prouvé que plus la dose est élevée, plus le risque de développer un ou des méningiomes l'est aussi. Mais depuis quand les autorités de santé ont-elles été averties des risques ? Androcure, gestation d'un scandale sanitaire. Sébastien Freudige, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur et neurochirurgien à l'hôpital Lariboisière, chef du service de neurochirurgie et le premier lanceur d'alerte en France pour l'Androcure. Alain Veil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialiste en santé publique et épidémiologie à l'assurance maladie et directeur adjoint d'EpiPhar. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Et puis si vous nous écoutez en direct, faites donc un tour sur Twitter, sur X pour notre live tweet qui commence tout de suite. Vous y trouverez de nombreuses ressources complémentaires. C'est sur notre fil @sciencesqfd. Alors quelles sont les conséquences pour la vie des victimes ? Quelle est la responsabilité de l'État et celle des laboratoires dans cette affaire ? Comment établir une corrélation puis une causalité entre ce médicament et le risque de méningiome ? Et qu'en est-il des autres projets statifs ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec ce montage sonore et ces extraits entendus sur le petit écran.
L'Agence nationale de sécurité du médicament met en garde au sujet de nouveaux médicaments hormonaux et elle met en garde au sujet de leur lien potentiel avec l'apparition de tumeurs cérébrales.
La cause de cette tumeur, selon Emmanuel Mignaton et le neurochirurgien qui la suit, l'Androcure. Un médicament miracle capable de soigner l'hirsutisme, le cancer de la prostate ou l'endométriose. Mais le problème, c'est que ce médicament multiplie aussi par 20 le risque de contracter une tumeur selon l'agence du médicament.
C'est une victoire pour Véronique Dujardin. En lutte contre le géant pharmaceutique Bayer, cette poitevine vient d'obtenir la confirmation qu'un procès pourra bien avoir lieu. Son combat contre ce médicament, l'Androcure, qu'elle a pris pendant 20 ans et qu'elle accuse de lui avoir causé des tumeurs au cerveau.
On fait prendre des risques inconsidérés à des personnes et à des femmes surtout qui prennent ce médicament surtout par confort. En fait, ça peut éviter l'épilation toute simple. C'est aussi bête que ça. Il faut qu'elle le sache aujourd'hui. Il y a un risque. Face à ce risque, l'intérêt du médicament est zéro.
Merci Olivier Bétard, notre réalisateur, pour ce montage sonore. Sébastien Freulich, comment vous compléteriez comment vous compléteriez ce qu'on vient d'écouter ?
Bah écoutez, effectivement, cette découverte du lien entre les projets statifs et les méningiomes a pas mal changé la prise en charge de ces patients à l'hôpital. Et elle continue de changer cette prise en charge. On s'est effectivement aperçu que ces médicaments pouvaient être à l'origine de certains méningiomes et qu'à l'arrêt de ces médicaments, dans un bon nombre de cas, on avait une régression de ces tumeurs. Et donc pour le neurochirurgien que je suis, ça veut dire que certains patients n'ont pas besoin d'être opérés. Donc c'est une découverte tout à fait intéressante, fascinante, avec des conséquences importantes pour les patientes qui sont concernées.
Alain Veil, pour compléter ce qui vient d'être entendu.
Eh bien, on est parti effectivement de quelques cas rapportés, et puis on est allé jusqu'à une relation causale entre la prise d'un petit comprimé blanc, de façon régulière pendant de nombreuses années, et des tumeurs cérébrales. Donc c'est tout à fait impressionnant, et je dirais même imprévu dans ma carrière, comme effet indésirable médicamenteux, avec des conséquences que vous imaginez pour les personnes concernées.
Vous dites en effet quelques cas rapportés. Pour faire les présentations de ce médicament, et puis aussi plus tard de ces molécules, Alain Veil, pour qui sont les patients et les patientes à qui on a prescrit de l'Androcure ?
Oui, alors l'Androcure est prescrit à la fois chez les femmes, mais aussi chez les hommes, il faut le savoir. Donc chez les femmes, l'indication officielle, c'est l'hirsutisme majeur d'origine non tumorale. L'hirsutisme, faut bien comprendre ce que c'est, hein. C'est le développement d'une pilosité dure et pigmentée chez la femme, dans des régions masculines, les lèvres supérieures, le menton, le thorax, les faces externes des cuisses, le dos. Donc quelque chose qui est difficilement supporté socialement, c'est au fond une affection relativement sévère. Et en première intention, l'androcure est indiquée pour ces femmes avec des résultats tout à fait favorables. La deuxième grande indication chez les hommes, dans le traitement palliatif anti-androgénique des cancers de la prostate. Voilà. En effet, c'est un médicament qui lutte contre les hormones mâles.
Voilà, ça, c'est, en effet, ce sont les premières indications. Hein, ce médicament a été synthétisé pour la première fois en 1961. L'androcure est mis sur le marché dès 1980. Mais Sébastien Froidic, il faut dire que 85% de prescriptions de l'androcure, c'est dans un cadre hors AMM, c'est-à-dire que c'est un détournement de leur usage initial, c'est pas la première indication. Dans les années 2000, on observe une large prescription de l'androcure, mais hors de ce cadre et pour un grand nombre d'applications.
Bah effectivement, c'est quelque chose qu'en tant que neurochirurgien, on a constaté assez régulièrement que les motifs pour lesquels les patientes prenaient ce médicament correspondaient pas forcément aux indications qu'on connaissait ou qu'on pouvait lire sur la boîte ou sur la notice du médicament. Et oui, il y a eu une sorte de dérive dans les prescriptions, bien que, comme l'a rappelé Alain Veil, ça reste un médicament très actif et très utile pour bon nombre de patientes. Mais à la lumière de cet effet secondaire, qui est quand même relativement grave, oui, on s'est rendu compte qu'il y avait clairement des indications pour lesquelles la prescription des médicaments n'était pas tout à fait légitime.
Alain Veil.
Ces indications, on peut, hors AMM, hein, comme vous dites, on peut les résumer, il y a déjà l'acné, hein, dans un climat d'hyperandrogénie, c'est-à-dire un petit peu masculinisant chez une femme. Il y a la perte des cheveux aussi, en lien avec ce climat hyperandrogénique, donc comme indication hors AMM qu'on a retrouvée. Une contraception banale, c'est absolument pas justifié de prendre ce médicament dans une contraception banale. Il y a plein d'autres médicaments contraceptifs moins fortement dosés, dans l'endométriose, et puis dans ce qu'on a le syndrome des ovaires polykystiques aussi, où on retrouve des prescriptions.
En 2018, la France représentait 60% du marché européen de l'androcure. À quel point ce médicament a-t-il été prescrit, Alain Veil ?
Il était largement prescrit en France, comme vous le dites, hein, puisqu'on représentait une grosse partie du marché européen, en tous les cas pour le 50 mg, parce que la France avait la particularité d'avoir des dosages à 100 mg, des dosages à 50 et le dosage à 2 mg dans la pilule Diane que vous avez citée. D'autres pays européens ont du dosage à 10 mg. Donc ça représentait sur la période 2008-2014, grosso modo, il y a un peu plus de 400 000 femmes qui ont consommé de l'androcure. Et par année, suivant les périodes, entre 70 000 et 50 000 qui consommaient de l'androcure chaque mois.
Donc ça fait un grand nombre de femmes exposées à ces doses assez importantes. Est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes que cela représente ?
Alors, on calcule de façon théorique le nombre de cas attribuables nombre de cas de méningiome opérés ou qui ont subi de la radiothérapie attribuables à l'androcure. Et le chiffre est de l'ordre de 900 sur les 10 dernières années en France. Voilà, 900 personnes qui ont été opérées d'un ou de plusieurs méningiomes intracrâniens liés à la prise répétée et continue d'androcure. Voilà, c'est un ordre d'ordre. Mais bien entendu, derrière ces méningiomes qui ont été opérés, il y a un certain nombre de méningiomes, et là, le professeur Froelich en reparlera, qui ont été suivis médicalement et qui, pour certains, ont régressé, et puis d'autres petits méningiomes qui ont été observés, et d'autres, enfin, qui ne sont pas connus, mais des personnes sous androcure qui pourraient présenter un méningiome.
Sébastien Froelich, on parle de tumeurs bénignes pour qualifier ces méningiomes. Qu'est-ce que ça signifie plus exactement ?
Alors le terme bénin fait référence à la classification anatomopathologique, c'est-à-dire qu'une fois que cette tumeur est retirée, on l'analyse et on voit à quelle catégorie d'agressivité elle appartient. Et donc le terme bénin fait référence à ça. À partir de cette classification et de ce critère bénin, atypique ou malin, on définit une stratégie plus ou moins agressive par rapport à, vis-à-vis d'une tumeur qui est plus ou moins agressive. Effectivement, ça n'est absolument pas lié au geste chirurgical, parce que celui-ci, il est absolument pas bénin. Et c'est vrai qu'on a vu des patientes réagir à la présentation de ces méningiomes comme étant quelque chose de bénin. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça nous a fait aussi prendre conscience en tant que praticien que voilà que les mots ont un sens et que pour une patiente qui est opérée et qui subit toutes les conséquences de cette intervention chirurgicale, bah, de s'entendre dire que son méningiome est bénin, ça peut perturber, ça peut choquer. Mais c'est un terme qu'on utilise entre médecins, entre praticiens, pour définir la stratégie qui suivra de surveillance ou de traitement après l'intervention chirurgicale.
Vous êtes au contact justement de ces patients, Sébastien Froelich. Qu'est-ce que ça représente justement pour ces patients et ces patientes qui sont touchées par des méningiomes ?
Ben c'est un événement qui est clairement difficile, hein, difficile à gérer, difficile à appréhender. Il est difficile d'apprendre qu'on a une tumeur cérébrale. Il est encore plus difficile d'apprendre qu'on a une tumeur cérébrale qui est liée à un médicament qu'on a pris. Et il est encore plus difficile d'apprendre qu'on a pris ça peut-être pour des raisons qui ne justifiaient pas. Donc c'est clair que le contexte de ces patientes est difficile. Maintenant, en tant que neurochirurgien, dans ce problème des méningiomes sous androcure, on a plutôt un rôle assez bon parce que ça fait partie des rares tumeurs en neurochirurgie où quand on arrête le médicament, effectivement, dans bon nombre de cas, la tumeur régresse et donc ça permet d'échapper à l'intervention chirurgicale. Donc après la mauvaise nouvelle, on a assez souvent une nouvelle plutôt rassurante à apporter aux patientes, même si ça n'élimine pas tout, mais qu'il y a de bonnes chances qu'elles puissent échapper à l'intervention chirurgicale.
Alain Veil ?
Oui, peut-être pour compléter, environ 2 à 3 ans après l'intervention neurochirurgicale, nous on constate dans nos grandes bases de données que 30% par exemple des malades qui ont été opérés sont sous médicaments antiépileptiques. Donc la tumeur a disparu, mais le geste a provoqué la nécessité de prendre des médicaments pour lutter contre l'épilepsie. Beaucoup de femmes également ont des traitements antidépresseurs, hein, sans me prononcer sur la cause, mais le nombre qui en prend est très important. Et enfin, il y a des arrêts de travail de longue durée et certaines femmes qui ne retrouvent pas une capacité à travailler, voire qui sont en invalidité, hein, pour certaines.
Donc là, on parle des conséquences potentielles de l'intervention chirurgicale. Hein. Donc, on voit bien par ces chiffres et ces données que les conséquences sont loin d'être anodines. C'est des patients qui peuvent garder des séquelles de manière définitive, des traitements antiépileptiques de manière définitive. Donc, pour nous, en tant que neurochirurgiens et pour la communauté neurochirurgicale, c'est une information capitale à délivrer que quand on fait face à une patiente avec un méningiome qui est lié potentiellement à l'androcure, s'il n'y a pas urgence à l'intervention chirurgicale, la première chose à faire, c'est d'arrêter le traitement et d'observer, de regarder ce qui se passe. Et dans à peu près 70% des cas, en ce qui concerne l'acétate de cyproterone, c'est un tout petit peu moins vrai avec les autres progestatifs, on s'aperçoit que la tumeur se stabilise ou régresse.
Justement, l'acétate cyproterone, qui est donc le principe actif de ce médicament, comment fonctionne ce progestatif, Sébastien Froelich ?
Alors, on sait depuis longtemps que les méningiomes expriment des récepteurs à la progestérone. Ils sont sensibles à la progestérone. On le sait parce que quand on regarde ces récepteurs à la progestérone après avoir retiré la tumeur dans la tumeur, c'est le fameux examen anatomopathologique dont je parlais tout à l'heure, eh ben on constate très souvent que des récepteurs à la progestérone sont exprimés. L'autre chose importante, c'est que on sait depuis longtemps que la grossesse, par exemple, favorise la croissance des méningiomes et dans certains cas, à l'accouchement, il peut y avoir une régression. Et ce qui se passe pendant la grossesse, c'est qu'il y a une imprégnation de progestérone extrêmement importante.
Et d'ailleurs, Alain Veil, il faut aussi savoir que l'acétate de cyproterone, c'est l'anti-androgène le plus puissant de la pharmacopée.
Bah oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est utilisé chez les femmes qui ont un climat trop hyperandrogénique, et dans les cancers de la prostate, où évidemment le rôle des androgènes est tout à fait prépondérant. Il faut quand même savoir que ce médicament n'est pas utilisé dans certains pays, notamment les États-Unis.
Donc, et le Canada aussi, je crois.
Alors le Canada à toute petite dose, mais pas à forte dose. Mais par exemple, aux États-Unis, ce médicament n'a jamais été autorisé.
En revanche, il est très utilisé à l'international.
Ah, il est utilisé dans une centaine de pays environ. Parfois à la dose de 2 mg uniquement dans ce qu'on a appelé la pilule Diane, dans de très très nombreux pays. Parfois à la dose de 10 mg qui n'existe pas en France, mais par exemple dans le nord de l'Europe, pour des indications que je dirais un peu équivalentes de certains traitements en France, ils utilisent le 10 mg. Et puis le 50 qui est utilisé moins souvent. Alors il faut aussi savoir qu'il y a une indication hors AMM, c'est les femmes transgenres hein, qui prennent ce type de traitement. Je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard. Mais c'est un traitement féminisant, donc des hommes génétiquement qui se transforment en femmes, donc genre féminin. Donc on les appelle des femmes transgenres et qui prennent des traitements féminisants à la fois avec de fortes doses d'estrogène et de fortes doses de progestatifs. Et c'est l'acétate de cyprotérone qui est nettement favorisé en Europe comme traitement. Donc c'est une population qui est particulièrement à risque de méningiome. Mais les premiers cas que Sébastien Frolich a décrit, je crois, étaient des personnes transsexuelles.
D'autant plus que ce sont des traitements à vie. Alors comment avez-vous lancé l'alerte et comment avez-vous mené une étude pharmaco-épidémiologique pour mettre en évidence les liens entre la consommation d'androcure et le développement de ces tumeurs ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Sébastien Frolich et Alain Veil, nous parlons de l'androcure et de ses conséquences pour la vie des victimes. Sébastien Frolich, vous êtes le premier en France à avoir remarqué un lien entre la consommation d'androcure et le développement de méningiome. Comment s'est déroulée cette prise de conscience ? La première fois, c'était en 2004.
Écoutez, ça s'est déroulé de manière assez simple et la médecine parfois peut créer ce genre de situation où on est amené à découvrir comme ça des faits médicaux extrêmement intéressants. Il s'agissait d'une patiente que j'ai été amené à opérer en urgence parce qu'elle avait des troubles visuels d'aggravation rapide. Elle avait des méningiomes multiples et j'ai opéré cette dame de ce méningiome principal qui entraînait les troubles visuels et de 8 ou 9 autres méningiomes. Il s'est avéré que je l'ai vue en consultation de contrôle après cette intervention, en même temps qu'une autre patiente qui avait une histoire clinique très similaire. Et en les interrogeant, j'ai constaté qu'elle prenait toutes les deux ce médicament. Ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que mes maîtres m'avaient appris que les progestatifs, la progestérone et les méningiomes, il y avait un lien. Et une troisième patiente s'est présentée quelques mois plus tard avec des troubles visuels sévères, mais cette fois-ci un méningiome inopérable. Et avec un de mes collègues de l'époque, on s'est dit, pourquoi ne pas simplement essayer d'arrêter l'acétate de cyprotérone? C'est ce qu'on a fait. Et on a eu la surprise de voir qu'elle s'améliorait sur le plan visuel. Et avec un peu plus de recul en termes de temps que le méningiome diminuait de taille. Et donc c'est ça qui m'a poussé à creuser et à regarder l'ensemble des patients qu'on avait opérés dans ce service. Je travaillais à Strasbourg à l'époque. Et d'identifier ceux qui prenaient de l'acétate de cyprotérone et de regarder les caractéristiques de leur tumeur. Elles avaient quelque chose en commun, souvent multiples, localisées à peu près au même endroit sur la partie antérieure de la base du crâne et la convexité antérieure. Et pour certaines, à l'arrêt du médicament, on observait une diminution des méningiomes. Fait tout à fait extraordinaire. Et donc ça a éveillé mon intérêt depuis. Et bon, ça a amené aussi à des rencontres tout aussi extraordinaires avec Alain Veil, par exemple.
Oui, parce que Alain Veil, vous aussi, vous avez travaillé sur d'autres scandales comme le Mediator, la Dépakine. Vous accordez aussi beaucoup d'importance aux lanceurs d'alerte.
Oui, tout à fait. En l'espèce, c'est aussi assez simple. C'est début 2016, donc une patiente du réseau de l'assurance maladie, ce qu'on pourrait appeler une patiente experte, qui est d'ailleurs elle-même médecin, donc qui m'a parlé de ce problème-là. Donc elle avait pris longuement de l'acétate de cyproterone, et elle avait eu un méningiome qui avait dû être secondairement opéré. Et donc, elle m'a parlé de cette situation. Elle avait elle-même regardé et vu qu'en Alsace, il y avait un nombre quand même relativement important de patientes qui prenaient de l'androcure au long cours, et elle s'en inquiétait. Et je lui ai évidemment posé un certain nombre de questions, et notamment par qui elle était suivie. Et donc, elle était suivie par le professeur Fröhlich, et elle avait été opérée par lui. Et c'est ainsi que je suis rentré en relation avec Sébastien. La deuxième chose, c'est que j'ai demandé, comme toujours dans ce cas-là, est-ce que vous avez prévenu l'agence du médicament ? Est-ce qu'il y a eu des signalements de pharmacovigilance ? Et elle m'a dit, bien sûr que oui, je suis rentré d'ailleurs en contact à ce moment-là avec l'agence du médicament pour savoir ce qu'ils avaient fait exactement. Et puis donc, on a décidé là-dessus, compte tenu de l'ensemble de la littérature que j'ai pu lire, quand j'ai ce type de signalement, je regarde la littérature scientifique. Alors, ça peut paraître très compliqué, mais c'est simple. Hein. Je tape le nom du médicament, donc c'est cyproterone and meningioma, voilà, et je regarde tous les articles qui parlent d'acétate de cyproterone et de méningiome. Et alors, dans le titre et le résumé, c'était simple. À l'époque, il y en avait 7. Et quand on regardait l'ensemble des articles, il y en avait 11. Donc, c'est relativement vite lu, et je suis retombé donc sur le premier cas de cette histoire d'un transgenre qui avait pris pendant 5 années de l'acétate de cyproterone, je crois, à 100 mg et qui avait développé à la base du crâne une tumeur de plus de 5 cm de diabète. En moins de 5 ans, il avait une imagerie médicale strictement normale au début du traitement. Et c'est cette publication qui a éveillé l'attention d'un certain nombre de chercheurs. Mais dans le même temps, le professeur Fröhlich avait fait la démarche qu'il vous a indiquée sur la voilà. Et on s'est réunis ensemble, on a fait des réunions et monté une étude sur les bases de données de l'assurance maladie dont je parlerai.
Et on va revenir en effet sur cette étude qui est très importante, puisque c'est grâce à cette étude que vous avez réussi à établir le lien, à montrer la corrélation entre la dose d'acétate de cyproterone et le risque de méningiome. Mais avant ça, je reviens un petit peu en arrière, Sébastien Fröhlich. 2007, donc, la première alerte a lieu. À partir de 2008, vous présentez vos observations dans des congrès de neurochirurgie, de médecine interne et d'endocrinologie. À ce moment-là, les autorités sanitaires françaises prennent conscience du problème.
Écoutez, je saurais pas répondre à votre question. Je dois reconnaître qu'à cette époque-là, mon objectif était de parler à la communauté médicale, scientifique, aux neurochirurgiens, et effectivement, les abstracts auxquels vous faites référence, c'était le congrès européen d'endocrinologie et le congrès français de médecine interne. Ensuite, à partir du moment où on a ce doute, cette suspicion, il faut rassembler autour de soi des gens qui ont le même doute, faut les convaincre. Ça prend du temps. Il faut faire des bonnes rencontres, et la rencontre de cette personne qu'a évoqué Alain Weil précédemment, c'est-à-dire une patiente que je suivais mais qui était également impliquée dans la santé publique, a été tout à fait déterminante. Parce que c'est elle qui a fait le lien entre nous. Et à partir de là, c'est mon expérience clinique, l'expérience d'épidémiologiste de Alain, qui fait qu'on se décide à faire cette étude. Et c'est cette étude qui prouve. Et à partir du moment où on prouve, plus personne ne peut contester ce lien. Et clairement, les mesures peuvent et doivent être prises.
Dans l'histoire de l'androcure, il y a aussi quand même cette étude qu'il faut mentionner, étude avec de gros guillemets, parce que publiée en 2011, et selon cette étude, il n'y a pas de surrisque de méningiome chez les femmes qui prennent de l'acétate de cyproterone. Le hic, c'est que c'est une étude soutenue par le laboratoire Bayer. Parmi les auteurs, il y a des signataires de Bayer qui ont financé l'étude Alain Weil.
Oui, tout à fait. Alors, c'était une étude qui a été réalisée, je crois, par un médecin espagnol, mais qui était sur des patients anglais. La JPRD, c'est la grande base de données de remboursement en Angleterre. Et il faut bien savoir que si les hommes pour les cancers de la prostate prennent de fortes doses en Angleterre d'acétate de cyproterone, les doses équivalentes à celles données en France, en revanche, le 50 mg et le 100 mg n'est pas prescrit pour les femmes. Elles prennent uniquement la pilule Diane à 2 mg d'acétate de cyproterone. Donc la conclusion de cette étude qu'il n'y avait pas de sur-risque de l'acétate de cyproterone pour les femmes ne concerne que la pilule Diane. Néanmoins, quand un certain nombre de lecteurs européens ont lu ça, ils ont eu l'impression que c'était l'acétate de cyproterone en toute dose, parce que c'est pas marqué clairement ni dans le résumé, ni facilement accessible. Et ça a entraîné, je dirais, une certaine confusion scientifique des lecteurs qui veulent avoir de l'information et qui lisent le résumé et rapidement une partie de l'article. L'information n'était pas complète, c'était pour les toutes petites doses d'acétate de cyproterone. Ceux qui avaient étudié la chose n'avaient pas observé de surrisque.
Sébastien Froli.
Oui, moi j'ai tout à fait le souvenir de cette publication qui m'avait interpellé, je dirais même un peu plus, parce que c'était exactement à l'opposé de ce qu'on observait sur le terrain. C'est tout à fait surprenant quand même que cette étude ait été faite dans un pays où justement les petites doses étaient utilisées, alors que une des choses qu'on a quand même observé assez rapidement, simplement par l'observation clinique, c'est qu'il y avait un effet dose, c'est-à-dire que plus les gens prenaient longtemps ce médicament, plus ils avaient de risque de développer un méningiome. Donc c'est clair que c'est certainement pas en Angleterre qu'on aurait pu prouver ce risque. Par contre, en France, où je suppose qu'il était connu par ceux qui commercialisent ce médicament, il devait être connu que la France utilisait des doses plus élevées. Et donc c'est en France que ce risque ou ce type d'études, si elles avaient été faites à l'époque sponsorisées par le laboratoire, auraient possiblement montré un peu plus efficacement un risque.
En France, quand même, dès 2011-2012, dans la notice de l'Androcure, le risque de méningiome est ajouté.
Ben, tout à fait. Hein. L'agence du médicament qui devait s'appeler AFSAP, ça à l'époque, a alerté l'agence européenne, je crois, dès 2009, me semble-t-il. Et tout ça aboutit à un arbitrage et à l'ajout des mentions sur l'acétate de cyproterone de deux choses. C'est qu'il est formellement contre-indiqué de prescrire de l'acétate de cyproterone en cas de méningiome. Et deuxième chose qui était rajoutée, le méningiome est potentiellement un effet indésirable de l'acétate de cyproterone. Donc ces deux mentions ont bien été indiquées dans le produit Princeps dès 2011 pour Androcure.
Voilà. Cette contre-indication, ça n'a pas été très respecté, c'est un peu passé à la trappe à la veille, non ?
Alors, d'abord, la liste des effets indésirables pour l'Androcure est très longue. Hein. Je ne sais pas s'il y a 30 à 50 effets indésirables, mais c'est plutôt de cet ordre-là. Donc, quand on rajoute un 45e effet indésirable, pas grand monde le lut. La deuxième chose, et Sébastien Frölich ajoutait, quand on a conscience de quelque chose, mais qu'on n'a pas véritablement de preuves épidémiologique, qu'on n'arrive pas bien à mesurer l'amplitude du risque, quelle est vraiment la fréquence du risque, combien de personnes sont concernées, ce type de mention a beaucoup, beaucoup moins d'impact. C'est tout l'intérêt des études épidémiologiques.
Sébastien Frölich.
Oui, je vais dans le même sens que Alain, et c'est grâce aux données de l'assurance maladie qui, je crois, Alain, tu le confirmeras, commence à partir de 2006, qu'on a pu prouver ce risque. Et il fallait suffisamment de temps depuis le début du stockage de ces données pour pouvoir prouver qu'il y avait un risque, puisque on sait que on ne développe des méningiomes qu'après un certain temps. Donc, je crois que tu confirmeras qu'on n'avait pas tellement les moyens de prouver ce risque plus tôt que ça, puisque les données de l'assurance maladie n'ont commencé à être disponibles pour ce genre d'études qu'à partir de 2006.
Oui, vous avez suivi c'est cette fameuse étude dont les résultats sont sortis en 2018, puis une publication scientifique en 2021 dans The British Medical Journal. Et grâce avec les données de l'assurance maladie, vous avez suivi de 250 000 femmes qui prenaient de l'Androcure pendant 8 ans. On peut parler justement de votre méthode et de vos résultats, Alain Veil.
Oui, alors peut-être un petit mot sur les bases de données que nous utilisons. Hein. On a accès à toutes les données de remboursement de l'assurance maladie, de sorte que n'importe lequel d'entre nous, quand il a une prescription d'antibiotiques par son médecin généraliste, depuis la date de 2006 jusqu'à maintenant, s'est enregistré dans ces grandes bases de données qui a prescrit combien de boîtes, quel médicament exactement avec le code barre. Donc tout ça est enregistré. Et puis parallèlement à tous les soins de médecine de ville qui sont enregistrés, il y a également un certain nombre d'informations sur les séjours hospitaliers Donc notamment le motif de l'hospitalisation, bah ici on recherchera les hospitalisations pour méningiome, et puis également les actes principaux qui sont réalisés au cours de cette hospitalisation, et ici on recherchera bien sûr les interventions de neurochirurgie dans le cerveau avec des exérèses ou des décompressions, voilà, ou éventuellement des radiothérapies comme traitement principal ou complémentaire. Donc l'accès à cette grande base de données avec le recul depuis 2006 a permis de monter une méthodologie d'étude. Donc vous avez cité un chiffre de 240 000, c'est ça, de 240 000 patients. Alors, qu'est-ce qui se passe? On prend tous les patients qui débutent ce type de traitement depuis 2007, donc première instauration du traitement. On les classe en deux groupes de patients. Les patients qui arrêtent le traitement au bout d'une boîte ou deux boîtes. Vous savez que c'est très très fréquent en France pour la plupart des traitements. Il y a, dit au long cours, il y a un tiers, parfois la moitié des gens qui arrêtent le traitement. Ici, il y en a 115 000 qui ont arrêté au bout d'une ou deux boîtes. Et puis de l'autre côté, on prend les patients qui continuent le traitement plus longuement, donc plus de trois boîtes, et qui continuent après le sixième mois. Il y avait environ 140 000 patients dans ce groupe-là. Et on va comparer dans le groupe des patients qui ont arrêté très précocement le traitement par rapport à ceux qui l'ont continué longtemps, l'apparition des méningiomes sous forme de séjour hospitalier pour intervention d'un méningiome ou radiothérapie. Et on a constaté que dans le groupe des personnes qui continuaient l'androcure plus de 6 mois, il y avait 7 fois plus d'interventions pour méningiome. Ça, c'est la première chose qu'on a constatée. Deuxième chose, plus les personnes continuaient longtemps le traitement et donc prenaient des doses cumulées importantes, et plus le risque était important. Par exemple, pour les personnes qui avaient pris plus de 60 grammes de dose cumulée d'androcure, ça correspond à peu près à 5 années de traitement à dose standard, le risque était multiplié par 22. Donc première chose, le risque est augmenté. Deuxième chose, il y a une relation dose-effet qui est très importante pour la causalité. Plus la dose est élevée, plus le risque est élevé. Troisième élément important de notre étude, lorsque les personnes, et c'est ce que le professeur Fröhlich a indiqué tout à l'heure, lorsque les personnes prenaient le traitement un certain temps, n'avaient pas de méningiome, puis arrêtaient le traitement, quelle que soit la cause, le risque à ce moment-là baissait et revenait environ 2 fois le risque de base.
Sébastien Fröhlich.
Oui, non, mais tout est dit sur la méthodologie et c'est vrai que on a été surpris par le résultat qui était tout à fait limpide et aussi par la confirmation que l'arrêt du médicament était la solution pour un certain nombre de patientes.
Suite à cette étude en 2018, quelles ont été les recommandations de l'ANSM et quels ont été les effets directs de ces recommandations et que sait-on du développement des méningiomes? Restez à l'écoute. In Your Brain de Monophonix en direct sur France Culture, car nous parlons des risques de tumeurs cérébrales provoquées par un traitement hormonal, l'Androcur. On en parle avec nos deux invités du jour, Sébastien Frolich, professeur et neurochirurgien à l'hôpital Lariboisière, chef du service de neurochirurgie, le premier lanceur d'alerte en France pour l'Androcur, et Alain Veil, médecin spécialiste en santé publique et épidémiologie à l'assurance maladie, directeur adjoint d'Epiphar. Nous venons de parler de votre grande étude épidémiologique qui a prouvé donc une augmentation du risque de développer un méningiome qui est multiplié par 7 au bout de 6 mois de prise d'Androcur et par 22 au bout de 5 ans. Suite à cette étude en 2018, Alain Veil, quelles ont été les recommandations de la NSM ?
Alors d'abord, il y a eu une information généralisée des patients et un impact médiatique très très fort lorsque cette information est sortie. Donc en même temps que la sortie de l'information, on a informé les médecins, les patients, mais surtout on a demandé à ce que les femmes réalisent une IRM, une imagerie cérébrale, avant de débuter le traitement, puisque le méningiome est une contre-indication. Et puis, dans un second temps, au bout de 5 ans, puis tous les 2 ans, l'absence de méningiome. Voilà. La deuxième chose qui a été demandée comme recommandation, c'est de limiter strictement les traitements aux indications de l'AMM, donc l'hirsutisme sévère pour les femmes. Et puis, la troisième chose, c'est des traitements avec les doses les plus faibles possibles et le moins longtemps possible, de façon tout à fait logique, qui est quand même à même de diminuer le risque.
Ce qu'on a vu avec la consommation de ce médicament a énormément chuté. Et autre conséquence, le nombre de cas de méningiome s'est effondré, Sébastien Frolich.
Alors, je ne suis pas sûr que le nombre global de méningiomes en France ait chuté, hein, parce que les méningiomes peuvent être liés à beaucoup d'autres causes que le...
En tout cas, ceux liés à l'Androcur.
Ceux liés à l'Androcur, tout à fait.
Ma question n'était pas tout à fait précise.
Ceux liés à l'Androcur, effectivement, ont diminué. Et le nombre d'interventions chirurgicales qui va avec, et c'est surtout ça qui est important, c'est que ces patientes qui ont un méningiome et qui arrêtent l'acétate de cyproterone, pour un certain nombre d'entre elles, doivent éviter l'intervention chirurgicale parce que la lésion régresse.
Allez. Il y avait environ une centaine d'interventions chaque année de patientes sous... l'acétate de cyproterone à haute dose et depuis longtemps, jusqu'en fin 2017 et à la fin 2021, on était environ à 5 interventions chaque année.
En sachant que ça pouvait être aussi des interventions répétées, puisque c'est souvent des méningiomes multiples. Donc, on a pu voir des patientes qui ont eu plusieurs interventions chirurgicales pour un méningiome, un autre, tout simplement parce qu'elles continuaient à prendre de l'acétate de cyproterone.
Les méningiomes, c'est l'un des cancers cérébraux les plus fréquents du système nerveux central. Pourtant, la recherche est peu développée sur ce cancer. Pour le reportage du jour, nous sommes allés à l'Institut du cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour rencontrer un neurochirurgien qui justement mène des recherches sur ces méningiomes. On en parle avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, le docteur Michel Calamarides réalise de la neurochirurgie et de la recherche au sein de l'équipe génétique et développement des tumeurs cérébrales. Selon l'état de l'art, la prise d'Androcur induirait l'émergence de méningiomes aussi en cas de prédisposition génétique. L'enjeu est alors d'identifier les mutations génétiques et biomarqueurs de ces tumeurs et de comprendre les mécanismes impliqués dans leur développement. Car si retirer les tumeurs selon leur taille et localisation s'opère relativement bien, il reste à comprendre les causes et facteurs favorisants pour mieux les prévenir.
Ça, c'est l'IRM d'un patient qui est venu en urgence suite à une crise d'épilepsie et des grands maux de tête. Et vous voyez ici, on voit là cette image qui touche la méninge, c'est-à-dire que le méningiome, il touche toujours la surface du cerveau.
Excusez-moi, c'est la zone en blanc.
Cette grosse zone en blanc. Vous voyez, c'est énorme, hein, mais ça a poussé tout doucement, donc ça a eu le temps de prendre la place. Et on s'en aperçoit pas tout de suite. On s'en est aperçu quand le cerveau, vous voyez là, le cerveau, c'est un peu plus gris. Et là, il y a de l'œdème. Et là, on sait qu'à cet endroit-là, il y a une infiltration du cerveau et ça va être difficile. Mais c'est situé là, heureusement pour le patient, dans une région finalement qui est assez peu symptomatique, dans le lobe frontal gauche. Et vous voyez, même si c'est très gros, c'est impressionnant, ça va être, on va dire, plutôt simple à retirer. Et je pourrais vous montrer d'autres IRM de petits méningiomes. Vous direz, c'est simple, mais finalement, qui sont d'un accès très difficile, très périlleux. Donc je dirais que la taille d'un méningiome, c'est spectaculaire quand on voit l'IRM, mais ça ne représente pas la difficulté à le traiter. Alors les méningiomes, c'est globalement des tumeurs qui sont le plus souvent bénignes. Plus de 90% des méningiomes sont de grade 1 ou de grade 2. Et il y a quelques rares méningiomes de grade 3 qui, eux, sont des tumeurs beaucoup plus agressives, qui peuvent récidiver, pour lesquelles on n'a pas vraiment de traitement, qui peuvent donner des métastases.
Quelles sont les causes de ces méningiomes selon leur catégorisation ?
Alors, les méningiomes, on connaît de plus en plus la génétique, c'est-à-dire les causes moléculaires, et on peut expliquer de façon génétique le développement de méningiomes bénins malins. Donc il y a des gènes qui sont connus, identifiés. Alors maintenant, de comprendre ces gènes, ça ne permet pas d'expliquer pourquoi certains méningiomes sont malins, mais on connaît quand même très bien maintenant la génétique des méningiomes. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs favorisants ? Ben oui, il y a des facteurs favorisants. On en connaît quelques-uns. Le premier, c'est des prédispositions génétiques à développer des méningiomes. Donc la première cause, c'est la schwannomatose liée au gène NF2, où c'est une maladie génétique très rare, où les patients vont avoir de multiples méningiomes associés aussi à des schwannomes et des ependymomes. C'est une tumeur bénigne très rare. Les deux autres causes connues de méningiomes, la première, c'est l'antécédent d'irradiation. Et il y a deux sortes d'irradiation. C'est quand on a été irradié à forte dose dans l'enfance, quand on a eu une maladie maligne, un lymphome, une leucémie. Et là, on peut développer 20 à 30 ans plus tard des méningiomes qui peuvent être un peu plus agressifs. Et l'autre cause, c'est les traitements hormonaux, en particulier les traitements hormonaux fortement dosés, tels les progestatifs de synthèse.
Qu'est-ce qu'on sait du lien vraiment causal entre l'exposition longue et à haute intensité de ce médicament et le développement de cette tumeur au niveau mécanique, presque ?
L'explication, finalement, c'est assez complexe. On ne comprend pas bien encore clairement. Pourquoi ? C'est que quand on étudie des méningiomes de femmes qui ont été exposées aux progestatifs de synthèse, et en particulier à l'androcure, la génétique de ces méningiomes est différente de la génétique des méningiomes tout venant dans une population de femmes qui n'auraient pas été exposées. Et probablement, l'explication qu'on a actuellement de ça, c'est qu'il y a des mutations qui existent dans des cellules normales de la méninge, et de prendre de l'androcure pourrait favoriser l'émergence. Donc, est-ce que l'androcure serait vraiment responsable des mutations ? C'est pas sûr.
Déclencher.
Ça pourrait être un élément révélateur de mutations. Mais c'est très complexe. Et actuellement, on fait beaucoup d'études ici à l'Institut du cerveau avec le docteur Père là-dessus pour essayer de comprendre ce point qui est important.
Il y a l'enjeu du diagnostic et de la prise en charge. Alors, que peut-on proposer aux patientes ou patients qui viennent ici et qui sont porteurs de cette tumeur ?
Alors, c'est vrai que le diagnostic, nous on voit les patients qui arrivent avec déjà le diagnostic de fait en tant que neurochirurgien, puisque le diagnostic est fait sur une IRM qui est faite soit de façon systématique pour explorer, par exemple, dans la prise de progestatifs de synthèse, mais plus souvent c'est devant des maux de tête, suite à une crise d'épilepsie, suite à un déficit neurologique, c'est-à-dire on a du mal à bouger une main, à parler, à voir, à entendre.
Ils font partie des symptômes des méningiomes.
Et ces symptômes sont en lien direct avec la localisation du méningiome. Donc quasiment devant des symptômes, on peut imaginer où il peut y avoir un méningiome. Et donc l'IRM révèle les méningiomes. Après, ce qui est compliqué dans la décision thérapeutique, c'est pas simple. Hein. On voit souvent les patients effrayés d'arriver avec un diagnostic de méningiome, mais il faut savoir que c'est que le méningiome est ce qu'il y a de plus fréquent comme tumeur. Et donc, si on fait des IRM à une population de 60 ans qui n'a pas de symptômes, des IRM faites pour autre chose, 1% va avoir un méningiome. Donc, c'est fréquent de trouver des méningiomes, souvent de taille moyenne ou petite, qui ne vont pas grossir. Et donc, devant un méningiome qui n'a pas de symptômes, qui est découvert sur une IRM, on surveille. Et la plupart du temps, ça ne va pas grossir. Sinon, le traitement principal des méningiomes, quand ils sont symptomatiques ou s'ils grossissent, même sans symptômes, ça va être la chirurgie. Et il faut essayer d'enlever ce méningiome le plus totalement possible, mais quand même en préservant la fonction. Et dans certaines localisations très difficiles d'accès, on préfère laisser un peu de méningiome, surveiller le reste qu'on a laissé. Et si jamais il regrossit, se pose la question de traitements complémentaires tels que les rayons, parce que la radiochirurgie, c'est-à-dire des traitements très focalisés sur le méningiome, ou la radiothérapie, qui est des séances de rayons, peuvent stabiliser des méningiomes qui ont été enlevés de façon partielle. Et d'ailleurs, Aussi, quand on découvre un petit méningiome qui n'a pas de symptômes, qui grossit, on peut même d'emblée traiter ce méningiome sans faire de biopsie, directement.
Merci Céline Lozen pour ce reportage. Sébastien Froelich, pour compléter ce qui vient d'être écouté, est-ce que les projets sédatifs créent ces tumeurs ou les font-ils seulement progresser ?
Je crois qu'il y a probablement les deux scénarios. Il y a clairement des méningiomes dont la croissance est accélérée par les progestatifs. Et puis il y a des méningiomes qui ont des caractéristiques différentes, encore une fois, souvent multiples, localisées dans une zone particulière. Et eux, on a la sensation que c'est vraiment le produit, l'acétate de cyprotérone, qui a initié le processus. Maintenant, et c'est tout l'intérêt des recherches qui sont menées actuellement, et notamment par Michel Calamarides à l'ICM, c'est d'essayer de comprendre ce phénomène, et il en a parlé, il y a un shift mutationnel dans ces méningiomes liés à l'acétate de cyprotérone, c'est pas les mêmes que les autres. Maintenant, est-ce que certaines patientes ont un facteur favorisant de développer des méningiomes lorsqu'elles prennent de l'acétate de cyprotérone, c'est un peu tout l'enjeu de la recherche aujourd'hui. Parce que si on arrive à identifier ce facteur-là, peut-être qu'on pourra quand même permettre à certaines patientes de prendre ce médicament en se disant cette patiente-là a moins de risques qu'une autre. C'est un peu ça l'objet de la recherche fondamentale et de comprendre de manière plus large l'ensemble des méningiomes. Parce que c'est ça que ça a permis aussi d'avoir des réponses qui sont potentiellement applicables à l'ensemble des méningiomes.
Voilà, le lien entre consommation de l'androcur à haute dose et développement de méningiomes est avéré. Mais qu'en est-il des dérivés de progestérone moins dosés ? Restez à l'écoute.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Sébastien Froelich et Alain Vaille, nous parlons du scandale de l'androcure qui favorise la progression des méningiomes, ces tumeurs cérébrales. Alain Vaille, un certain nombre de progestatifs comme l'uténil, l'utéron, privilégient eux aussi les méningiomes à des niveaux différents.
Oui, tout à fait. Alors, les différentes études ont démontré la forte association et la relation dose-effet pour un certain nombre de produits. L'uténil, l'utéron, vous l'avez cité, qui sont des progestatifs largement utilisés en France. Il y en a également trois autres, et on a publié ça plus récemment, c'est la colprone, je donne la surgestone, qui est un médicament qui a été retiré depuis 2 années, mais qui provoquait des méningiomes, mais qui aujourd'hui n'est plus commercialisé en France. Et enfin, le sixième, c'est le dépôt Provera. Donc, c'est un contraceptif injectable que l'on prend une fois tous les 3 mois en intramusculaire. Il est très peu prescrit en France, c'est une contraception utilisée par quelques milliers de femmes en France, mais à l'international, il faut savoir qu'il est énormément prescrit, environ 74 millions de personnes, de femmes, prennent ce contraceptif chaque année dans le monde. Et c'est bien l'objet de l'inquiétude. Ce sont généralement des femmes particulièrement défavorisées dans des pays à bas niveau socio-économique. Les pays où ce produit est le plus utilisé sont l'Indonésie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Il est également pas mal utilisé là aux USA, à la différence des autres qui ne sont pas utilisés, dans les populations plus volontiers défavorisées.
Ça signifie qu'on peut s'attendre dans les 2 ans à venir à une épidémie de méningiomes dans ces pays, Alain Vaille ?
C'est tout à fait à craindre. Il y a eu pour l'instant une seule communication aux États-Unis, qui est un résumé dans un congrès à Pittsburgh. Donc ils ont relevé une série d'une vingtaine de cas de méningiomes, souvent multiples, souvent à la base du crâne, souvent 15 à 20 années de contraception par dépôt Provera, et je crois parfois irrégressifs, qui font évidemment fortement évoquer cela. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été menées en Indonésie, qui sont pas bien menées sur le plan épidémiologique, mais pour lequel on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'interventions chez des femmes d'âge de la trentaine ou de la quarantaine, qui sont liés à des problèmes de méningiomes, eux-mêmes en lien avec une contraception de longue durée injectable.
Oui, ça, c'est parce que là, on parle de la France depuis le début de cette émission, mais au niveau international, cet aspect-là aussi est très important, de pouvoir observer les conséquences de ces progestatifs sur un grand nombre de populations.
Alors oui, c'est particulièrement les progestatifs, c'est un médicament très largement utilisé pour beaucoup d'indications, on l'a dit, la contraception, les traitements hormonaux de la ménopause, l'endométriose, qui est une maladie fréquente mise en avant, certaines douleurs mammaires, etc. Et puis la contraception, bien entendu, donc est utilisé sous diverses formes, sous forme orale, sous forme injectable, sous forme intravaginale, sous forme de gel transdermique, aussi inséré dans les stérilets. Un certain nombre de stérilets sont des stérilets dits hormonaux et d'élite improgestative. Donc cette question est particulièrement importante à l'échelle internationale. Pour les stérilets dits hormonaux, nos résultats sont rassurants et en faveur de l'absence de sur-risque de méningiome. Il y a plusieurs millions de femmes en France qui ont ce type de stérilet. C'est important de le dire.
Sébastien Froich, on parle, là, on évoque un certain nombre de progestatifs. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce ne sont pas les mêmes principes actifs que pour l'androcur, ce sont des dérivés de la progestérone. Ça signifie que c'est une famille de molécules qui favoriserait les méningiomes.
Alors, oui, je crois que l'ensemble des progestatifs ont un lien avec les méningiomes. Maintenant, ce lien est plus ou moins fort. Il est très fort pour l'acétate de cyproterone. Il est très faible pour des contraceptifs très peu dosés. Mais ce qui est important, je crois, de comprendre, c'est que c'est en quelque sorte la somme globale de cet effet progestatif qu'une femme a pris dans sa vie qui compte. Ça peut être quelques années d'acétate de cyproterone, puis on arrête, puis ensuite on prend un contraceptif mini-dosé, puis on reprend un peu de luténil, puis entre tout ça, on a deux enfants avec deux grossesses qui génèrent un shoot de progestatif. C'est un peu l'ensemble de tout ça, je pense, qui compte. Et c'est ça, je trouve, qui va être intéressant maintenant de regarder. C'est pas forcément spécifiquement un traitement, mais l'addition de tous ces traitements, quelle valeur ça a. D'un point de vue méthodologique, je crois que c'est très compliqué d'étudier l'ensemble des traitements dans la vie d'une patiente. Mais en tant que clinicien, c'est un peu ça qu'on voit. C'est que c'est l'addition de tout ça qui, à la fin, finit par être à l'origine de ces tumeurs.
On arrive à la fin de cette discussion, très rapidement, Alain Veil. Vous avez dit au cours d'émission qu'il aurait été impossible de réagir plus tôt. Les victimes de l'androcur demandent réparation auprès de l'État, mais quelle est la responsabilité de l'État et des autorités de santé dans cette affaire?
Alors, c'est difficile à préciser, hein. D'abord, je pense quand même que le laboratoire, effectivement, aurait pu mener des études dans d'autres pays que l'Angleterre, hein. On l'a signalé en 2011. En ce qui concerne les autorités, notamment l'Agence du médicament, moi, ce que je peux dire, c'est que le panel des actions qui a été entreprise a été extrêmement important d'information des patients, d'information des médecins, d'information auprès des médias, d'écrire de façon individuelle à chaque patiente qui avait pris de l'androcur de faire une IRM de dépistage. Donc c'est un dossier qui globalement a entraîné tout un panel d'actions extrêmement importantes en France en tous les cas. Voilà, pour ce qui est des responsabilités. Et s'il y en a, c'est à la justice de se prononcer.
Voilà, et dans une autre procédure, un procès qui vise Bayer est programmé en avril 2025 devant le tribunal de Poitiers. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On est donc arrivé à la fin de cette discussion. Et dans quelques secondes, on retrouve la chronique Avec Science. Alexandra Delbo nous parle aujourd'hui de la formation de notre système solaire. C'est la chronique Avec Science.
Quand les planètes géantes sont-elles arrivées là où elles sont ? Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont toutes formées à peu près au même moment, en quelques millions d'années seulement, quand le Soleil était encore entouré d'un disque de gaz et de poussière. Contrairement aux planètes telluriques, elles sont très éloignées de notre étoile. Le problème, c'est que cette formation, en l'état, ne tient pas. En tout cas, pas avec les places actuelles. Les planètes n'ont pas pu se former là où elles sont maintenant, et le meilleur moyen que nous ayons pour expliquer leur position actuelle et que les planètes géantes étaient à l'origine beaucoup plus proches du Soleil avant de reculer, c'est ce qui est appelé une instabilité orbitale. Alessandro Morbidelli est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, titulaire de la chaire de formation planétaire au Collège de France et dernier auteur de cette étude parue dans Science.
On pense que, à la suite de la disparition du gaz autour du Soleil, les planètes géantes sont devenues instables et par la suite d'une série de rencontres proches mutuelles et en dispersant les disques des petits corps cométaires qui les entouraient, elles ont acquis leurs orbites actuelles. Et c'est un modèle qu'on appelle le modèle de Nice qui explique très bien les orbites actuelles des planètes géantes, mais aussi les orbites de tous les petits corps du système solaire externe. Donc, ce modèle d'instabilité permet aujourd'hui d'expliquer toute la structure observée du système solaire externe. Mais on ne sait toujours pas avec précision quand cette instabilité a eu lieu. Certainement après la disparition du gaz, mais est-ce qu'elle a eu lieu tout de suite après la disparition du gaz, peut-être même engendrée par la disparition du gaz elle-même, ou est-ce qu'elle a eu lieu un peu plus tard? Alors, on a des limites supérieures vers les 100 millions d'années, donc elle ne peut pas avoir eu lieu plus tard que 100 millions d'années, mais entre 0 et 100 millions d'années, c'est quand même un grand intervalle de temps, et donc il y a pas mal de travaux pour essayer de contraindre les timings réels de cette instabilité.
Et pour contraindre le timing, pour comprendre quand a eu lieu cette instabilité orbitale, il faut des indices, des événements un peu étranges qui se seraient passés comme des collisions ou des rencontres, des partages de matière qui pourraient prouver que les planètes ont changé de place. Et la meilleure matière que nous ayons à disposition nous arrive presque dans le creux de la main, ce sont les météorites. Mais pas n'importe lesquelles. Dans cette étude, il s'agit de chondrites à enstatite. Et elles présentent deux particularités. D'abord, ce sont des météorites dites primitives. On sait qu'elles se sont formées au même moment et au même endroit que la Terre. Elles partagent donc une composition semblable. Deuxième particularité, on sait d'où viennent ces météorites. Elles sont des fragments d'un plus gros caillou nommé Hathor, situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et ces deux particularités constituent notre événement étrange. Comment ce progéniteur, ce corps parent, Hathor, peut-il avoir la même composition que la Terre en se situant si loin? Grâce à de la modélisation et de la thermochronologie, il est possible à partir des météorites de dater le chemin de l'astéroïde parent, de retracer l'histoire d'Hathor, de comprendre d'où il vient et comment il s'est retrouvé dans la ceinture d'astéroïdes. Résultat, la capture d'Hathor par la ceinture d'astéroïdes n'est possible qu'en cas d'instabilité des planètes géantes, ce qui permet de dater cette migration.
On sait que ces corps parents ont été détruits par une grande collision 65 millions d'années après l'origine du système solaire. Donc, le scénario est que ces corps étaient dans la région des planètes telluriques, il s'est cassé 65 millions d'années après les débuts, et un de ces fragments, probablement les fragments majeurs, Hathor, a été ensuite capturé dans la ceinture des astéroïdes, où nous pouvons les voir aujourd'hui, et depuis nous viennent les météorites instatites qu'on récolte actuellement sur Terre. Donc, il faut que cette capture dans la ceinture des astéroïdes ait eu lieu plus tard que 65 millions d'années, et c'est relativement tard dans l'échelle de l'évolution du système solaire. Et donc, l'hypothèse que nous avons faite est que la capture a été facilitée par l'instabilité des planètes géantes. Quand les planètes géantes deviennent instables, toutes les orbites changent. Et donc, c'est relativement facile de capturer des corps dans la ceinture des astéroïdes à ce moment-là. Et donc, on a montré par simulation numérique qu'effectivement, l'instabilité des planètes géantes rend la capture relativement probable et aisée. Et donc, on déduit que cette instabilité a eu lieu plus tard que 65 millions d'années. Il y a une limite supérieure à 100 millions d'années, donc ça permet d'encadrer un peu les timings de l'instabilité entre 65 et 100 millions d'années.
La migration des planètes géantes du côté opposé au Soleil s'est donc bien faite après dissipation du gaz protoplanétaire. La poursuite de ces travaux, c'est de pouvoir affiner encore cette chronologie grâce à d'autres collisions et d'autres matériaux, toujours des météorites, mais cette fois des chondrites ordinaires qui, elles aussi, montrent des traces de choc à peu près à la même période.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Merci à Marie-Claire Oumabadi à la technique aujourd'hui. Vous pouvez nous podcaster partout sur l'appli Radio France et nous suivre sur Twitter @science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.